mon message ce matin, la première partie du message, il est le Dieu de l'impossible. Dieu, j'ai dit première partie parce que le Seigneur a ouvert mon cœur, m'a donné une richesse, une révélation particulière. Et c'était tellement riche cette semaine, il y avait tellement un déploiement. Le Saint-Esprit me conduisait d'une pensée à l'autre. Je crois qu'il y a un trésor pour vous. Alors, on va le donner sur deux messages. Bienvenue à vous ici, bienvenue à la communauté en ligne. Deux messages pour t'équiper, quelle que soit la situation d'impossibilité que tu traverses. Quel que soit ce que tu as vécu, ce que tu traverses présentement, Jésus te regarde. Jésus a ses yeux sur toi. Il voit absolument tout de ton passé, de ton présent, de ton avenir. Et il te dit aujourd'hui ce que la Bible enseigne d'un couvert à l'autre et qu'il veut que tu reçoives pour toi dans ta situation aujourd'hui. Matthieu 19, 26, Jésus les regarda à ses yeux sur toi et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » J'aimerais que vous disiez à voix haute avec moi comme votre déclaration de foi, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Est-ce qu'on peut l'applaudir à l'avance, « Tout est possible. » Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement, veut semer, veut planter dans nos cœurs, dans ces deux messages, à travers ces deux messages, des semences de possibilités divines. Cette révélation du Dieu de l'impossible, ce rappel du Dieu de l'impossible, sont le fondement même du tout premier message du ciel annonçant le plan rédempteur pour toute l'humanité, une personne à la fois, en Jésus-Christ. Lorsque l'ange, le messager du ciel, a parlé à Marie, tu porteras un enfant, tu enfanteras un enfant à celle qui n'avait pas connu d'homme. Et l'ange, le premier message du ciel à la terre, annonçant dans la Nouvelle Alliance, annonçant la naissance de Jésus, Luc 1, 34, 37, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je ne connais pas tes combats. Je ne connais pas tes combats, mais Dieu les connaît. Je ne connais pas tes combats, tes défis, tes peines, tes crises, tes épreuves, ce que tu traverses en ce moment. » Mais nous portons tous, dans une saison ou une autre, ou en ce moment, nous portons tous dans nos cœurs des « comment cela se fera-t-il? » Elle a dit « comment cela se fera-t-il? » Nous portons tous des « comment cela se fera-t-il? » Humainement, ça me semble impossible. Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que ça peut prendre place dans la vie de cette personne près de moi? Comment cette guérison peut-elle prendre place? Comment cela se fera-t-il que ce qui est brisé soit réconcilié? Comment cela se fera-t-il que celle qui souffre de maladie mentale puisse être apaisée et retrouver un chemin de paix, un chemin d'équilibre? Comment cela se fera-t-il pour l'accomplissement de ce que Dieu a mis sur mon cœur, pour rebâtir ce qui a été détruit? Comment cela se fera-t-il pour rebâtir tout ce que j'ai pu perdre? Comment cela se fera-t-il? On a tous des moments où nous disons, humainement, c'est impossible. Et la nouvelle pour toi ce matin, humainement, aux hommes, il y a toute cette dimension inatteignable et impossible, mais avec Dieu, tu peux entrer dans « avec Dieu, tout est possible ». Il y a toutes sortes de façons dont les auteurs bibliques décrivent le Dieu de l'impossible. On l'a chanté ce matin, littéralement, mot à mot, Éphésiens, chapitre 3, verset 20-21. Laisse cette description de ton Dieu remplir ton cœur. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, jusqu'en 2023, et le peuple de Dieu dira. Il est le Dieu de l'impossible. Nous devons ranimer et renouveler cette richesse spirituelle dans nos cœurs. Il peut faire, il est celui qui peut faire au-delà de. Il a besoin, Paul a dit au jeune Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. Tu as bon, il a besoin de réouvrir nos cœurs à l'Esprit de Dieu pour dire, Seigneur, viens me ramener à cet endroit où je crois que le Saint-Esprit peut encore me couvrir, comme il a couvert Marie. Le Saint-Esprit peut encore nous couvrir. Cette puissance qui agit en nous peut faire encore au-delà. Il peut faire au-delà de. Il peut agir au-delà de. Nous devons rehausser et refuser de réduire nos attentes et nos perspectives à nos dimensions humaines, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ne réduis pas Dieu. Ne réduis pas ton Dieu à tes demandes, tes pensées, à tes limitations, tes demandes et même tes prières humaines, parce que nos demandes, nos perspectives à nous, elles sont humaines, elles sont limitées, elles sont imparfaites, elles sont voyant seulement dans le momentané. Ne limite pas Dieu à tes demandes et à ce que toi tu pensais qu'il devrait arriver ou qu'il aurait dû arriver. Il est infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Nous devons recalibrer notre vision du rôle et des ressources de son Église. À lui soit, celui qui fait au-delà de toute chose, à lui soit la gloire dans son Église au siècle des siècles jusqu'à aujourd'hui. La vision de Dieu pour nous, son Église, pas seulement le bâtiment, mais nous, son peuple sur la terre. Il n'y a aucune place dans la pensée de Dieu pour que ton expérience, si tu regardes en ligne, que ton expérience d'Église soit de venir. On chante quelques cantiques, on entend un message et on retourne chez nous. Ce lieu est le lieu où la puissance dans l'impossible de Dieu se manifeste, où à chaque semaine, Dieu veut manifester sa gloire. Voulez-vous applaudir le lieu où il fait au-delà? C'est pas la bâtisse. C'est pas la bâtisse, c'est le fait que nous sommes ensemble en sa présence. Alors nous avons besoin de recalibrer nos attentes et nos ressources, la vision, notre rôle en tant qu'Église. Nous sommes là pour voir le Dieu de l'impossible manifester sa gloire et nous devons revenir à la révélation et aussi au réalisme, à la révélation et au réalisme de l'enseignement de la parole de Dieu sur le Dieu, ce que la Bible enseigne sur le Dieu de l'impossible. Question, est-ce que vous connaissez le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons? Est-ce que vous savez où était Paul? Quel était son contexte? Chapitre 3 d'Éphésiens. Il était en prison. Il était prisonnier. Le premier verset, chapitre 3, moi, le prisonnier de Jésus-Christ. Il était en prison. Il n'a pas dit le Dieu de l'impossible a fait disparaître la prison. Il était en prison. Il avait ses combats, mais il déclare le Dieu de l'impossible. Je vous donne un autre exemple, un des versets les plus connus. On l'a chanté, ça aussi, il y a quelques minutes. Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dites amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est Éphésiens 4. 13. C'est très, très, très profond ce que je vais dire. Avant Éphésiens 4, 13, il y a Éphésiens 4, 12. Et après Éphésiens 4, 13, il y a Éphésiens 4, 14. Vous me suivez jusque-là, ça va? Et puis, dans quel contexte est-ce qu'il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie? » Voici le verset qui le précède. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Oh, le taux d'amen a baissé dramatiquement. « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. » Et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Et voici le verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et le verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Merci à l'Église d'Éphèse d'être venu à mon aide dans mon moment de détresse. Il y a beaucoup de magnifiques promesses de Dieu qui, sorties de leur contexte, deviennent des prétextes et surtout des clichés, des slogans. Des slogans, bumper sticker faith, de la foi, de collants qu'on met sur nos voitures avec des petites phrases sorties d'un peu partout. Je peux tout pour ça qui me fortifie. Nous avons besoin de revenir, de réaliser que ces versets sortis, certains des versets les plus extraordinaires de la Bible, sortis de leur contexte, peuvent devenir clichés et slogans où l'absence de réalité vient polluer complètement et même fausser la révélation. Nous avons besoin de revenir à la révélation et au réalisme. Lorsque Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », le Dieu de l'impossible n'a pas fait disparaître instantanément la prison de Rome. Vous dites « Oui, mais il y a une fois où l'ange a sorti la vôtre de la prison. » Oui, Mais dans ce cas-ci, l'apôtre Paul, le plus grand désir de sa vie était d'aller prêcher, d'établir une église dans la ville de Rome. Mais il ira à Rome une fois, deux fois et trois fois emprisonné. Et on peut l'imaginer dans le fond de sa cellule en pensant, si je voudrais tellement être à Rome, pouvoir prêcher, bâtir une église. S'il était allé à Rome, avait prêché et bâti une église, qu'est-ce qui en serait resté 50 ou 100 ans plus tard? Mais dans sa pensée à lui, il est limité à une cellule à écrire des lettres à ses amis et aux chrétiens d'Éphèse et de Thessalonique et aux chrétiens de Rome. Il ne sait même pas si les lettres vont se rendre, mais le Dieu de l'impossible fait en sorte que 2000 ans plus tard, ces lettres ont touché des millions et des millions et des millions de personnes. Il est le Dieu de l'impossible! Mm-hmm. « Je peux tout par celui qui me fortifie, bibliquement, n'a jamais voulu dire « je peux devenir tout ce que je veux ». Je peux devenir tout ce que je rêve. Je peux devenir tout ce que je peux créer. Je peux tout créer. Je peux tout changer. Je peux tout guérir. Je peux tout prévenir. Je peux tout protéger. Je peux tout effacer. » Non seulement à l'intérieur de l'Église, mais des millions d'enfants qui grandissent en se faisant dire « rêve n'importe quoi. Rêve ce que tu veux. Tu peux l'être. Suis ton rêve. » En tant qu'enfant de Dieu, nous disons « suis le rêve que Dieu a pour toi. » Je peux tout pour celui qui me fortifie. L'apôtre Paul est en prison lorsqu'il le dit. Puis il me dit, savez-vous ce que le texte veut vraiment dire? Je peux tout traverser. Abondance, peine, difficulté, tempête. Je peux tout traverser par celui qui me fortifie parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Je peux traverser toutes mes épreuves, le Dieu de l'impossible, mais j'ai aussi... Et ce qui est tellement puissant, je peux tout, il dit, je peux tout traverser par celui qui me fortifie. Et merci à vous d'avoir pris part à ma détresse. Ça, c'est un portrait authentique. Ça, c'est un portrait réaliste de l'Église. L'Église chrétienne n'est pas une gang de personnes qui se remplissent de slogans vides, ignorant la douleur de la personne à côté de lui. « Je puis tout, je puis tout, je puis tout, je puis tout. » L'Église chrétienne dit « Nous servons le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que je traverse, il va être avec moi, il va me donner victoire, il va le tourner en bien et je porte ton fardeau aussi. Quand tu pleures, je pleure. Quand tu souffres, je souffre. Nous pleurons ensemble, combattons ensemble et nous célébrons ensemble le Dieu de l'impossible. » Nous allons étudier dans ces deux messages les expressions du Dieu de l'impossible parmi les plus célèbres, connues, vraies et citées dans la Bible. On va regarder ensemble les deux prochains messages, c'est le devoir que je vous donne. Lisez à la maison de Jérémie 29 à 32. Et une des promesses, une des multiples descriptions bibliques du Dieu de l'impossible dans Jérémie 32, 17. « Ô Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu, rien n'est trop difficile pour toi. » Est-ce qu'on le croit ensemble aujourd'hui? Rien n'est trop difficile. Rien n'est impossible pour toi. Alors, entends-le pour toi. Saisis-le pour toi. Dans tes combats, dans tes épreuves, nous vivons tous des moments où le genou plie et nous disons, c'est juste trop difficile. C'est juste trop difficile ce que je vis. C'est trop difficile cette séparation, c'est trop difficile cette épreuve, c'est trop difficile cette peine, c'est trop difficile cette maladie, c'est trop difficile ce qui arrive avec mes enfants, c'est trop difficile ce qui s'est passé à mon travail, c'est trop difficile ce qui se passe dans mes relations, c'est trop difficile ce qui arrive dans ma famille, c'est trop difficile. Pour chaque moment, nous regardons aujourd'hui et dans chaque saison, chaque moment où en toi, dans ton humanité, aux hommes, c'est trop difficile. Tu as besoin de savoir que le Dieu pour qui rien n'est trop difficile, il est derrière toi, il est avec toi, il est en toi, il marche devant toi et tu peux tout par celui qui te fortifie. Il est le Dieu de l'impossible. Et dans ce contexte de 29 à 32, il y a une section extraordinaire de Jérémie. Nous regardons aujourd'hui une promesse très connue que beaucoup d'entre nous avons cité et réclamé, et vous devez le faire, que beaucoup d'entre nous avons même mémorisé, qui est vrai et toujours vivant. Et vous pouvez, vous devez non seulement la recevoir, mais vous l'approprier dans toutes les saisons de vos vies, mais en particulièrement dans les saisons lorsque le présent et l'avenir semblent incompréhensibles, semblent instables, imprévisibles, ou même, parfois, on vit des moments où l'avenir nous semble insupportable, impossible. Et dans ce contexte-là, Dieu, à travers Jérémie, parle au peuple, Dieu de l'impossible, dit ceci, verset 29, chapitre 29, verset 11, verset que vous connaissez bien. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vais le laisser entrer dans ton cœur, toi en ligne qui fais face à quelque chose qui est incompréhensible, qui est presque intenable, qui te semble impossible à résoudre, imprévisible et parfois même presque insupportable. Je m'adresse même des gens qui ont des idéations tellement noires face à ce qui est devant eux. La voix de Dieu pénètre toutes ces ténèbres-là aujourd'hui et te dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, un espoir. » Ce verset-là est une promesse qui a été citée et mémorisée, comme j'ai mentionné, par tellement de chrétiens à travers l'histoire. Je crois cependant qu'un très, très grand nombre de croyants n'ont aucune idée du contexte, dans quel contexte Dieu a donné cette promesse. Dans l'herméneutique, qui est l'interprétation biblique, le contexte est absolument déterminant. De connaître plus profondément le contexte ne va pas abaisser, amoindrir ou abîmer ta foi, mais va au contraire. De connaître le contexte va affermir, va ancrer, va alimenter, va augmenter ta foi. Dans ces deux messages, je vais vous enseigner quatre proclamations de foi, quatre principes, quatre pratiques essentielles et puissantes pour quand tu traverses des vallées d'impossibilité. Et la première est celle-ci. Quel que soit ce qui a été ébranlé, échappé ou éteint dans ta vie, tu dois te rappeler et te rapprocher. Quel que soit ce qui a été ébranlé, échappé ou éteint dans ta vie, tu dois te rappeler et te rapprocher parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Le contexte de Jérémie 29, 11, je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, en est un qui est sombre. C'était la promesse a été donnée à un peuple qui avait été amené en captivité. Le peuple a été amené en captivité en Babylone, en exil. Le peuple s'était endurci devant Dieu de génération en génération, fermé, résistant, ignorant tous les appels et avertissements de Dieu. Nous sommes autour de l'an 597 avant Jésus-Christ. Toutes les années d'avertissement par Jérémie, les prophètes, et d'autres prophètes sont arrivés maintenant à leur accomplissement, à leur triste dénouement et aboutissement. Les Babyloniens les ont envahis, les ont capturés, les ont enchaînés, les ont amenés captifs, prisonniers. Les textes nous disent, les plus brillantes, les jeunes générations de leaders, le peuple entier est amené à plus de 1000 kilomètres, un voyage de plus de 1000 kilomètres de leur terre natale vers Babylone, qui sera aujourd'hui le sud de l'Irak, la région de Bagdad actuelle. Et ça, c'est devenu leur réalité. C'est où ils sont. C'est là où ils vivent en ce moment, à ce moment-là de l'histoire. Il y a eu des pertes, il y a eu des deuils, il y a eu des larmes, il y a eu des épreuves, il y a eu des souffrances. Rien n'est plus pareil. Et c'est au cœur de toute cette souffrance que la voix de Dieu se fait entendre et Dieu dit, je sais où tu es actuellement, je sais la réalité de ce que tu vis, mais voici, j'ai des plans. Car je connais mes plans. Toi, tu penses qu'il n'y a plus rien. Toi, tu penses qu'il n'y a plus d'issue. Mais moi, je connais les plans que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur. Les plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et je suis le Dieu à qui rien n'est trop difficile. Je suis le Dieu de l'impossible. Et quel que soit où tu es en ce moment, j'ai un plan pour toi. Quelqu'un devrait dire oui. Ça, c'est ce que le vrai prophète annonce. Mais ce qui est percutant, c'est que chapitre 28 et 29 de Jérémie, c'est un contraste entre certains faux prophètes, que la Bible appelle les faux prophètes, et avec les vrais prophètes. Le chapitre 28 et 29, il est le Dieu de l'impossible. Jérémie l'annonce au milieu de leur situation. Ils sont en captivité. Et le contraste est saisissant entre le faux et les vrais prophètes. Attention, c'est encore bien réel aujourd'hui. Des prophètes tellement loin. Des gens qui disent parler pour Dieu, mais tellement loin de la réalité d'où les gens vivent vraiment. Les gens étaient en Babylone, étaient en captivité, et les prophètes, ceux dans leur tour d'ivoire, venaient contredire la promesse de Dieu que « j'ai vu où tu es, et voici, je vais travailler avec toi, je vais agir avec toi ». Regardez bien, je vais vous donner le contexte. Dans Jérémie chapitre 29, voici le contexte, verset 1. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens, en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem, 1000 kilomètres, à Bagdad, à Babylone. Et c'est dans ce contexte-là, au verset 10 de Jérémie 29, voici ce que dit l'Éternel. « Dès que 70 ans seront écoulés pour que 70 ans sont écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans la Bible, 70 ans représente une vie, représente la durée de vie moyenne. Et dans chacune de nos vies, il y a des saisons où je me retrouve en ce moment dans une Babylone. Et Dieu dit, j'ai toujours un plan, j'ai toujours un projet. Je ne nie pas ta réalité actuelle, mais voici, j'ai des plans et j'ai des projets pour toi. Mais les faux prophètes, vous lirez le chapitre 28 et le chapitre 29, mais les faux prophètes arrivent, Dieu avait dit 70 ans, mais les faux prophètes arrivent, ils disent non, c'est ce que Jérémie a dit, mais nous, on vous dit, on vous annonce, non, ça va être juste à peine 2 ans et puis vous allez être encore plus riche qu'avant. À peine 2 ans, tout va être rétabli, vous n'avez rien changé, rien. À peine 2 ans, non, oubliez ces grandes déclarations-là. Voici Jérémie 28:3, encore 2 années. Et je vais faire revenir ce lieu, tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Quand je vous dis 70 ans, ça ne veut pas dire que votre état actuel va durer pendant 70 ans. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les faux prophètes voulaient nier la réalité dans laquelle ils étaient. C'est ce que les faux prophètes ne s'encombrent pas de la réalité des gens qui souffrent. Et prétendre une foi qui nie les combats, les pertes et les deuils. En 2023, des centaines et centaines de fausses voix en ligne, suivies par des centaines de milliers de chrétiens crédules qui aiment être gavés de fausses prophéties, de grandeur, de prospérité, de succès, de facilité. Ou si tu as la foi et tu sèmes dans mon ministère, alors tu vas être une longue vie, longue succession ininterrompue d'élévation et de succès. Et le plus hallucinant, c'est que les faux prophètes continuent à annoncer avec arrogance, sous les acclamations, avec une assurance effrontée, malgré le fait que depuis des années, ils coulent misérablement le test de l'accomplissement. Ce qu'ils disent n'arrive pas. Sur 20, 30, 40 ans, tout ça, ils promettent tellement de choses à tellement de gens, il n'y a jamais de redevabilité. Et Jérémie 28:9, il dit, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Écoutez-moi, il faut absolument que le peuple de Dieu grandisse en discernement et apprenne à appliquer le test biblique de l'accomplissement. Est-ce que ça prend réellement place? Oui, il est le Dieu de l'impossible, le test de l'accomplissement. Est-ce que ce qu'ils disent au fil des années s'accomplit vraiment? Les faux prophètes annonçaient, tout va être chill, tout va être wow. Si tu marches avec Dieu, tu vas aller de victoire en victoire, de succès en succès et de sommet en sommet. Et ce faux évangile d'hyper-prospérité déforme Dieu et cause 2 poisons. Le premier poison, c'est qu'il y a des gens qui écoutent ça et ils disent, moi j'aime Dieu, moi je sers le Seigneur, moi j'aime le Seigneur et pourtant il m'arrive des choses. Pourtant je combats la maladie, pourtant il se passe quelque chose dans ma... Pourtant j'ai une épreuve. Ça crée une confusion. Et l'autre chose, une crainte, une confusion et certains une colère. C'est pas vrai du tout, balance le message. D'autres, le deuxième poison, c'est que ça peut causer une culpabilité, une condamnation. Une confusion. Si c'est vrai que quand tu suis Dieu, c'est seulement succès, bénédiction et guérison, qu'est-ce qui se passe avec moi? Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas avec moi. Je veux nous parler ce matin en ligne et en personne. Il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur en Haïti en ce moment. Il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur en Ukraine. Il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur en Irak. Il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur en Turquie, après le tremblement de terre. Il y a des chrétiens assis dans cette salle et en ligne qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Ils traversent des épreuves en ce moment. Et le message de Dieu, c'est « Je suis avec toi. Je suis le Dieu de l'impossible. J'ai des projets et des plans pour toi. » L'hyper-prospérité produit une exaltation, un engouement, un enthousiasme à court terme, mais un éloignement de la réalité. Il y a un peuple qui vit à côté de la réalité. Un endurcissement envers ceux qui souffrent vraiment et un effondrement de la foi de la foi et de leur confiance dans les vraies promesses de Dieu. Écoute-moi, dans un monde brisé, une planète brisée par le péché, une planète qui étouffe, une planète qui agonise, dans un monde brisé, dans une planète brisée, avec des générations brisées en générations complètement contraires au cœur de Dieu, il y a des cœurs brisés, il y a des familles brisées, il y a des maladies, il y a des pertes, il y a des deuils, il y a des combats, mais Dieu dit, où que tu sois en ce moment, je te prends dans ta réalité et je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Tu as un avenir, tu as une espérance, je suis le Dieu de l'impossible. Tu dois te rappeler de ça et tu dois te rapprocher parce qu'il ajoute, vous m'invoquerez et vous partirez, Jérémie 29, 11 à 13, et vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu traverses ça en ce moment, cherche-le de tout ton cœur. Même s'il y a une portion ou une saison dans la partition de la mélodie de ta vie qui est gravement distorsionnée en ce moment, tu es encore et toujours dans la symphonie des plans et des plans d'avenir de Dieu pour toi. Le Dieu de l'impossible te dit encore, quel que soit ce qui a été ébranlé ou éteint dans ta vie, dans ton histoire, il faut te rappeler, tu fais encore partie du grand plan de rédemption de Dieu de paix et non de malheur, d'avenir et d'espérance que Dieu a pour toi. Il faut te rapprocher. Il t'appelle ce matin, viens, approche-toi. Les plans sont là, mais tu dois les chercher. La présence est là, mais tu dois venir la chercher. Vous m'approcherez, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quand tu traverses une saison Babylone, c'est un combat spirituel féroce. C'est au quotidien, à la vie, à la mort spirituellement. L'ennemi met son comble avec tous ces pièges mensongers pour faire en sorte, vous remarquez, lorsque nous souffrons, lorsqu'on traverse, il y a quelque chose en nous qui veut fuir, il y a quelque chose en nous qui veut s'étourdir, il y a quelque chose en nous qui veut avoir une satisfaction court terme, un apaisement court terme, il y a quelque chose en nous, il y a toutes les forces de l'enfer. Je parle à quelqu'un en ce moment qui essaie de t'éloigner, de le chercher et de sa présence. Quand tu es au pire, quand tu traverses la vallée de Babylone, tu as besoin d'entendre Dieu qui dit « Je t'appelle, viens, invoque-moi, appelle-moi, cherche-moi, je vais me laisser trouver par toi si tu me cherches de tout ton cœur. » Mardi soir passé, j'étais à New York, à Times Square Church. Ça fait 30 ans, et plus, 33 ans, que je vais prêcher à Times Square Church. Il y a toutes sortes de témoignages dans l'église qui d'année en année, juste continuent. Et lorsque je suis arrivé, juste avant la réunion, il y avait une dame qui est là, que je connais bien, une mamie, elle était avec son fils adoptif, l'épouse de son fils adoptif, puis il y avait un bébé maintenant, beau bébé dans les bras. « Pasteur Claude, j'arrive, bon, bonjour, ah, ça me fait tellement plaisir de vous voir. » Puis elle me dit, « Est-ce qu'on pourrait faire une genre de pré-présentation de bébé. » Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une présentation de bébé qui s'en vient. On va être là à la présentation de bébé. Mais on pourrait-tu, c'est correct, ce soit en fait comme une pré-préparation de bébé, présentation de bébé avec vous? Une pré-présentation de bébé de cœur. Je pense pas que c'est illégal. Je pense que ça va être correct. J'ai pris le bébé, j'ai pris avec eux et avec son fils adoptif. Et cette femme-là, il y a plusieurs années, avait un seul fils. Son mari l'avait laissé, l'avait abandonné, il était dans une saison où tout ce qu'elle avait dans la vie, c'était son fils. Et son fils s'est mis à s'éloigner beaucoup des choses de Dieu, dans le quartier, de se tenir avec des gars qui étaient loin de tout ça, et commencer à faire des petites arrestations, toutes sortes d'affaires, et consommer, se tenir avec des gars qui faisaient une vie qui était vraiment trouble, une vie criminalisée. Et un soir, alors qu'il était passager dans une voiture, son ami qui conduisait était sous l'influence, était gelé, et puis a perdu le contrôle du véhicule et a tourné, et du côté passager a frappé dans un bloc de béton. Lui, le chauffeur, a été blessé, mais le garçon à côté était mort sur le coup, tué sur le coup. Et lorsque cette mère a appris que son fils était décédé dans ces circonstances-là, c'est un épée dans son âme, c'est un glaive dans son âme, c'est une femme de Dieu, une femme de paix qui chantait dans la chorale, une femme de foi qui avait vu son mari avait quitté. Et là, elle se retrouvait avec son fils et à la funéraille, elle était effondrée. Et dans la suite des semaines, cette femme remplie d'amour est devenue, il y a une haine, on dit c'est normal, elle avait du ressentiment pour le garçon en question qui conduisait, qui s'en est tiré, qui s'est retrouvé avec à une école de réforme pour jusqu'à ses 18 ans, mais c'était au-delà de toute normalité. Elle était remplie, était grugée d'une colère, d'une haine. Elle était tout se desséchait. tout se desséchait parce que tout ce qu'elle avait pu penser ou prévoir était fini, c'était terminé. Puis elle dit, il y a deux choses que je n'étais pas capable de tolérer. Je n'étais pas capable de tolérer ceux qui nous prêchaient, tout est parfait, tout est beau. Hey, je suis là, moi, je suis en train de mourir à l'intérieur. Et un jour, je suis arrivé pour prêcher et j'ai prêché un message sur le pardon. Et tout le long du message, j'étais dans la chorale, puis elle a dit, c'est parce que là, elle a raconté le témoignage plusieurs fois par la suite. Elle dit, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme si j'étais sous attaque démoniaque de l'ennemi qui me disait, c'est pas vrai, comment peut-il oser te dire ça, pardonner. Et finalement, ben, la minute que j'ai dit pencher la tête, fermer les yeux, elle s'est levée. Elle s'est levée, elle a enlevé sa toge de chorale, puis elle s'en allait, elle sortait, puis elle entendait ma voix, et elle sortait en se disant, « Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. » Et alors qu'elle était rendue dans le lobby, il y a un micro dans le lobby, alors qu'elle était rendue dans le lobby de l'église, j'étais en train de prier, puis je disais, « Je sais que c'est difficile, je sais que ça te semble impossible, ça t'a fait beaucoup trop mal, t'as trop, tellement de souffrance terrible, mais Dieu peut aller chercher ça. » Puis elle était dans le lobby, puis elle dit, « Littéralement, j'ai arrêté de marcher, puis c'était vraiment une décision. » Elle voyait le sanctuaire, elle voyait la porte. Et elle est revenue à l'intérieur, est revenue dans la chorale, les sœurs, toutes les femmes ont commencé à prier avec elle. Et dans les jours et les mois qui ont suivi, « Appelle à moi, invoque-moi, cherche-moi de tout ton cœur et je me laisserai trouver par toi parce que j'ai encore un plan pour toi, un plan de paix et non de malheur pour te donner un avenir et d'espérance. » Et l'Esprit de Dieu dans les termes du verset que je viens de vous lire, qui sont la réalité de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a couverte par le Saint-Esprit qui agissait en elle. L'Esprit de Dieu qui commence à écrire dans son cœur des pensées au-delà de tout ce qu'elle aurait pu penser ou imaginer. Au-delà de, par la puissance de Dieu, une pensée est venue, tu devrais aller visiter le jeune homme. Elle a combattu longtemps, puis lorsqu'elle a demandé à le visiter, il a accepté. Et lorsqu'il est arrivé dans les salles de visite, lorsqu'il l'a vu, les premières visites, il y avait une vitre, mais juste lorsqu'il l'a vu, lui, il est tombé, il s'est agenouillé en pleurant, « I'm so sorry, I want to die, I'm so sorry. » Puis il était là, puis je regardais, j'ai eu compassion de lui, comme une mère. Elle dit, « Comme, c'est sûr, mis à parler, c'est mis à le visiter, c'est mis à prier pour lui, c'est mis, il y a une espèce d'incroyable, compréhensible, au-delà de tout ce qu'elle aurait pu jamais imaginer ou prier ou penser, qui a commencé à se développer dans son cœur. Est-ce que tu comprends que Dieu peut changer le Babylone en bénédiction et peut changer le pire en meilleur? Et alors qu'elle était, lorsqu'il est arrivé le moment de sa première possibilité à 17 ans de sortir, ça prenait quelqu'un pour se porter garant de lui. Il n'y a pas de famille, il n'y a personne qui voulait de lui. Elle s'est sentie conduite de Dieu. Elle est allée en cour devant le juge. Et lorsque le moment est arrivé, elle a dit, « Moi, monsieur le juge, je serais prêt à le prendre chez moi. » Le juge a regardé les dossiers et a dit, « Madame, est-ce que je lis bien? Vous êtes la mère du garçon qui est mort dans l'accident, alors que lui est au volant. » Elle a dit, « Oui. » Et dans la salle de cour, elle a témoigné de sa foi. Les années ont passé. C'est un fils adoptif pour elle. Et là, je suis là. Et 30 ans, peut-être 20, 25 ans, 30 ans de vie, de paix, d'avenir, d'espoir, d'espérance, malgré l'horreur de ce qui a pris place, parce qu'il est le Dieu qui dit, « Je suis le Dieu de l'impossible, je peux changer le mal en bien. » Alors, tu devrais applaudir. Donnez une belle ovation au Seigneur pendant un instant. Quand, quel que soit ce qui a été ébranlé, échappé ou été dans ta vie, tu dois te rappeler et te rapprocher. Ma dernière pensée pour ce matin, il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que tu entends, tu dois rechercher, recevoir et rester dans sa parole. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Jérémie 30, 1 et 2, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est la phrase thème de cette section du livre de Jérémie qu'on appelle le livre, la section, le livre, la lettre de la consolation. La phrase qui revient, vous lirez à chaque chapitre, la phrase qui revient, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Au milieu de 1000 voix discordantes qui le bombardaient, Jérémie recherche, reçoit et reste dans la parole que le Seigneur lui a donné parce qu'il est le Dieu de l'impossible. il faut que tu réalises que c'est puissant. C'est ce qu'on fait ici, lorsque vous venez à l'église, dans la présence de Dieu, lorsque tu ouvres ta Bible, lorsque tu vas en ligne, tu regardes un podcast, lorsque tu viens ici dans la présence de Dieu, lorsque tu ouvres la parole, c'est quelque chose de puissant que nous faisons en ce moment. Ce que nous faisons en ce moment, c'est puissant d'être rassemblés pour entendre la parole de l'Éternel. Et Dieu veut te ramener, parce que c'est ça, une marche avec lui, à dire, oui, je traverse une tempête, mais la parole de l'Éternel me fait adresser. Et oui, je fais face à des choses que je ne comprends pas, mais la parole de l'Éternel. Oui, l'ennemi dit des choses à mon esprit. Oui, des gens disent des choses sur moi. Oui, ma chair dit des choses, mais la parole de l'Éternel me fut adressée. Dans une tempête, mais je traverse une tempête, mais la parole de l'Éternel est en moi. J'ai besoin que mon oreille soit sensible à nouveau à l'écoute de la parole de l'Éternel. Nous répétons ce verset magnifique, car je connais les plans, les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et d'autres de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Savez-vous ce qui vient immédiatement avant? Ça, c'est la voix de Dieu qui déclare, le Dieu de l'impossible qui déclare ses plans d'avenir. Le verset juste avant, ça c'est Jérémie 29, 10 et 11. Voici le verset 8 et 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, qui sont les faux prophètes, qui sont au milieu de vous. Par vos devins, n'écoutez pas les songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Jérémie a dû décider à chaque jour et discerner à chaque jour, choisir au milieu de tout ce qu'il entendait, quelle voix il allait écouter, en quelle voix il allait se confier, quelle voix il allait obéir. Nous devons entrer ou revenir dans cette dimension. Je vivais une saison vraiment de confusion, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je l'ai recherchée, je l'ai reçue, et je l'ai retenue et je suis resté dans cette parole. J'ai traversé une période où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, puis j'ai vécu un deuil, j'ai vécu quelque chose de terrible, j'ai vécu une perte, j'ai vécu une déception immense, mais la parole de l'Éternel me fut adressée. Je l'ai recherchée, je l'ai reçue. Je l'ai médité, je l'ai prié, je l'ai parlé. Elle est devenue une partie de moi. Je ne savais pas quoi faire, mais la parole de l'Éternel est venue à moi et m'a gardé dans ses voies. Beaucoup de nos conversations sont « je ne savais pas quoi faire, fait que j'ai parlé à 15 personnes. Je ne savais pas quoi faire, fait que je suis allé en ligne, j'ai vu au moins, j'ai regardé plein de sites et plein de podcasts. » Il y a une aide les uns envers les autres. J'ai écouté, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai écouté mes propres rancœurs, mes propres blessures. Je suis allé m'alimenter en parlant avec d'autres personnes blessées, où j'ai provoqué, avec mes amertumes, provoqué les leurs et dit « Vous écoutez les songeurs qui provoquent vos songes. Leurs mauvaises perspectives, leurs blessures provoquent la tienne. » Et on nourrit la blessure les uns et envers les autres. Et à chaque fois, dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu vient à l'Éternel. Je veux dire quelque chose, tu as besoin de la parole de l'Éternel pour aujourd'hui, pour tes batailles d'aujourd'hui. Tu ne peux pas te reposer sur une parole de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu as besoin d'aller chercher une parole fraîche aujourd'hui. Traverser le livre du prophète Jérémie, à chaque fois, il y a des dates spécifiques. La parole de l'Éternel fait adresser à Jérémie à cette date, la 10e année de. Concernant des personnes spécifiques, la parole de l'Éternel fait adresser à Jérémie à propos d'Ananiel, le fils de son oncle. Concernant des personnes dans ta vie, des situations, concernant des relations, concernant des combats qui durent longtemps, alors que Jérémie était encore en prison, la parole de l'Éternel fait adresser à. Concernant des attaques subites, des choses inattendues qui te dévastent. Lorsque cette guerre fut déclarée, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Nous avons besoin de la parole de l'Éternel, la parole du Dieu de l'impossible aujourd'hui pour nos batailles d'aujourd'hui. Voulez-vous risquer un amen aujourd'hui? Josué 1, 7 à 9. Fortifie-toi seulement, ne te décourage pas. En agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes lèvres, médite-le jour et nuit. Alors tu le lis, tu l'écoutes, tu le pries, tu le médites et tu le parles, tu le déclares pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et il est le Dieu de l'impossible. Comme Jérémie, Josué fait face à un inconnu total, une saison de transition, d'inconnu. Le peuple a été à tourner en rond des décennies dans le désert par leur désobéissance à écouter les voix de la peur, de la mise en doute des promesses de Dieu, des nations autour. Et Moïse est mort, le monument, la source de confiance pour Josué. Josué est complètement déstabilisé. Tous ses repères sont déstabilisés. Vous lirez le chapitre 1, il leur dit, maintenant c'est toi. Maintenant c'est toi et avec ce peuple pour entrer, tu vas amener le peuple et tous ses enfants dans la terre, promis ce que j'avais, promis. Seulement, il faut que tu recherches, il faut que tu reçoives, il faut que tu restes. Ce livre de la loi reste dans ton cœur, à gauche, ne regarde pas à gauche, regarde pas à droite, marche avec cette parole dans ton cœur. J'ai été, comme beaucoup de gens, assez surpris d'être intéressé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, tu devrais regarder la série sur Netflix, série documentaire sur la course automobile, Formula One, Drive to Survive. Je ne suis pas un amateur de course automobile, je ne pensais pas que ça m'intéresserait, mais en regardant ça, ce qui était vraiment fascinant pour moi, c'est que non seulement tu vois les autos tourner et tout ça, mais tu entends la voix du directeur de course, de l'ingénieur qui parle dans l'oreille du pilote. Il lui parle. Parce que, écoutez-moi bien, le pilote, je commençais à... Ça m'intéressait. Là, et c'est fascinant parce que le pilote ne peut pas regarder à gauche, à droite, en arrière. Il faut seulement qu'il regarde en avant et qu'il écoute la voix. Même pas un demi-amen à ça, moi, je trouve ça vraiment puissant. Je pensais que la foule dirait « Wow, wow, c'est fort, ça. » Alors, je fais un petit rewind. Le pilote ne peut pas regarder en arrière, à gauche ou à droite. Il doit regarder en avant et écouter la voix. Pas à gauche, pas à droite. Et c'est fascinant parce que des fois, la voix lui dit des affaires qu'il ne veut pas entendre. La voix lui dit « ralentis, ça ne me tente pas de ralentir ». La voix du Seigneur va te dire « ralentis, ça ne me tente pas de ralentir ». La voix va te dire « laisse-le passer, ça ne me tente pas de le laisser passer ». La voix va te dire « c'est pas ton moment maintenant pour gagner, c'est ton moment pour appuyer l'autre, ça ne me tente pas d'entendre ça ». La voix va te dire tout ça « le Seigneur, tourne pas à gauche, tourne pas à droite, garde la parole dans ton cœur, le Dieu de l'impossible va te conduire ». Il y a plusieurs années, il y a quelqu'un de l'église, je veux le remercier, je ne veux pas qu'il pense que je n'ai pas apprécié son cadeau, mais il y a plusieurs années, il y a quelqu'un de l'église qui nous a donné des billets pour aller au NASCAR à Montréal. Alors, je suis allé le premier jour, c'était pour deux jours. J'allais le premier jour avec Chantal, je déteste ça, les autos, ils tournent, puis j'aime pas ça. La jambe, je trouve ça trop long. Alors, j'avais des billets pour le lendemain, puis je ne voulais surtout pas les gaspiller, ça valait quelque chose. Fait que j'ai demandé à mon ami Luc Poirier, parce que Luc Poirier aime les voitures, aime la course, c'est un fils de mécanicien, il aime la course, il aime ça. J'ai dit, Luc, on y va. Et Luc était au ciel, on était dans la courbe, et tout ça, et les autos qui passent. Moi, je suis juste totalement ennuyé. Jusqu'à ce que, enfin, parce que moi, ma tête, elle tourne toujours vers une prédication. En avant de moi, il y avait des fanatiques de course, des gars qui venaient de Trois-Rivières. Puis eux autres, à ce moment-là, c'est là plusieurs années. Mais à ce moment-là, eux autres, il y avait une fréquence, il y avait la radio, il y avait un petit écouteur. Puis il y avait une fréquence où ils entendaient la voix ce qu'on voit maintenant à la télé. Ils entendaient la voix de l'ingénieur qui disait, il vient de dire ça. Puis ça, moi, vous entendez la voix de l'ingénieur qui parle au pilote. Waouh, ça, c'était quand même intéressant. Imaginez-vous si tout le monde qui rentre dans le stade se fait donner un micro où tout le monde peut parler au pilote. Vous avez 25 000 personnes qui parlent au pilote. Combien croit que le pilote rentrerait dans le mur? Arrête d'écouter toutes les voix autour. Arrête de consulter 50 voix. Débranche certaines voix et branche-toi sur la voix de Dieu. Dites à quelqu'un près de vous, ça valait la peine qu'il aille au NASCAR. Dites ça à quelqu'un près de vous. Je vais terminer avec ceci. Les musiciens ne savent pas. Je vais terminer avec ceci. Quel que soit ce que tu entends, tu dois rechercher, recevoir et rester dans sa parole. Job, un homme de souffrance, dans un moment de souffrance atroce, a écrit ceci. « J'ai considéré les paroles de ta bouche comme plus précieuses, plus nécessaires que ma nourriture. Je n'ai pas abandonné ses commandements, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » C'est de plus en plus rare à l'époque dans laquelle on vit. D'avoir des chrétiens qui sont prêts à plier leur volonté pour obéir à la parole de l'Éternel. Et c'est là que le Dieu de l'impossible se manifeste. Il accomplira donc, et là, je donne l'espoir à quelqu'un qui avait des dessins, qui avait des plans, puis vous dites, il n'y a rien que je pensais qui est arrivé. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Tu as vécu une perte. Tu as vécu un échec, tu as vécu un divorce, tu as vécu une rupture, une blessure. Tu as vécu quelque chose qui fait que ce que tu croyais être tes desseins se sont anéantis, tu es en Babylone. Quel que soit ce que tu entends, tu dois rechercher, recevoir et rester dans sa parole. parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Dieu a dit à Jérémie, « Ainsi parle l'Éternel des armées, chapitre 32, versets 12 à 15, que je vais développer lors du prochain message. Le Dieu d'Israël prend ses écrits, toutes ces voix-là autour de toi, moi, je vais te donner un message. Moi, je te dis, c'est ce qu'on a aujourd'hui, car je connais les plans que j'ai formés sur toi, des plans de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Prends ces écrits et mets-les dans un vase de terre pour qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, on achètera encore des maisons et des champs et des vignes dans ce pays. » Si vous comprenez le contexte, je vais l'expliquer plus en détail la prochaine fois. Mais à ce moment-ci, le peuple est en exil à Babylone, l'ennemi est au-dessus des murs et Jérusalem s'apprête à tomber. Tout est sombre. Et Dieu dit à Jérémie, prends le manuscrit, prends la promesse que je vais te donner. Malgré tout ce que tu entends, prends la promesse que je vais te donner, mets-la dans un vase. Un vase que tu vas mettre en terre pour qu'il soit gardé depuis longtemps. Parce que toutes les épreuves, tous les dictateurs, toutes les attaques, tous les deuils, tout vont passer, mais ma promesse pour toi va demeurer. Je t'avais accompli des desseins, mais j'en accomplirai de nouveau. Il accomplira, entends-le pour toi, il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Lorsque ce qui t'est arrivé, tu ne le comprends pas. Lorsque tu penses que c'est terminé, marche avec cette conviction. Il a accompli beaucoup de choses dans ma vie, mais il en destinera d'autres, il en accomplira d'autres. Ces chants vont fleurir à nouveau. Tu vas sourire à nouveau. Tu vas rire à nouveau. Tu vas croire à nouveau. Tu vas bâtir des maisons à nouveau. Tu vas aimer à nouveau. Tu vas marcher à nouveau. Toute la passion de Dieu, toute la passion de Dieu, dans Jérémie 32, verset 38, t'es bouleversé, ça fait 40 ans que j'ai lu les proverbes, les prophètes. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Je leur donnerai même un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants, pour ton bonheur et celui de tes enfants. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Dieu seulement se détourne de nous lorsque nous nous sommes détournés de lui. Mais un peuple qui s'est détourné, Dieu dit, « Je suis là. » Je vais mettre ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Regardez bien maintenant, c'est bouleversant. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Si vous voulez, comme je vous dis, ça fait 40 ans que j'ai les prophètes. J'ai fait des séries sur la livre de Jérémie. Et comme jamais dans les dernières semaines, ce verset est venu me bouleverser parce que moi, je passe ma vie à dire, « Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, je veux te servir de tout mon âme. » Mais Dieu dit, moi, je veux te bénir de tout mon cœur, de tout mon âme. Moi, tu es mon fils, tu es mon enfant. J'ai vu ta souffrance, je la comprends, je ne la nie pas. Je ne te présente pas un portrait sur une terre brisée, sur une terre déchirée, d'une vie de succès à succès seulement. Je sais les souffrances que tu as vécues, mais je connais les plans que j'ai formés sur toi, des plans de paix et non de malheur. Et je vais prendre plaisir à te bénir si tu me cherches de tout mon cœur. De tout ton cœur, Seigneur, envers moi, de tout ton cœur envers moi, de tout ton cœur. Il y a quelques années, j'ai regardé en ligne la funéraille de Billy Graham, homme de Dieu, extraordinaire, probablement prêché a vu plus de personnes se convertir sous son ministère en évangélisation que quiconque au 20e siècle, 21e siècle. Et le 2 mars 2018, c'était sa funéraille. Des présidents des États-Unis étaient là, anciens présidents des États-Unis, des généraux, des hommages extraordinaires, gouverneurs, les gouverneurs d'État, des présidents, des premiers ministres de d'autres pays, président, le chef du FBI qui était là, des centaines de pasteurs de partout à travers le monde qui étaient là. C'était une funéraille. Ils ont chanté des cantiques et célébré la vie d'un homme de Dieu. Et sa sœur est venue, elle a donné un beau témoignage. Et sa fille Anne, qui est une prédicatrice et une auteure, a fait une exhortation magnifique. Son fils Franklin est venu prêcher une prédication, une excellente prédication de salut et de foi en Dieu. Mais celle qui m'a le plus touché, celle qui m'a le plus bouleversé, c'est sa fille Gigi Graham. Avec une humilité et avec une transparence et des larmes tout au long, elle est venue dire, « Je suis la fille de Billy Graham. » Mon frère et ma sœur sont des prédicateurs partout dans les nations. Je suis une femme de l'ombre qui aimait Dieu tout son cœur pour des raisons que je n'ai jamais compris. Après plus d'une vingtaine d'années, mon mari est parti, m'a quitté. J'ai vécu, été déchiré en mille morceaux par ce divorce, cet abandon et ce rejet. Et elle dit, c'est ces mots à elle, vous pouvez le voir en ligne vous-même. Elle dit, il y a une période après ça où j'étais tellement blessé, I was stubborn, I was willful, I was sinful. J'étais entêté, j'étais blessé. Et un pasteur lui a présenté un homme chrétien de l'Église. Et alors que tout le monde dans sa famille disait, ralentis, attends, voyons donc, en quelque chose comme 6 mois, 1 an seulement après le divorce, le déchirement, elle a marié cet homme qui immédiatement s'est mis à être violent envers elle. C'est un fou, c'est un violent qui, après quelques mois et toutes sortes de choses terribles, l'a quittée aussi. Elle était en pièces, en mille morceaux, elle était en Babylone. Et un jour, elle a ramassé son courage, puis elle a dit, « Il faut que j'aille faire face à papa et maman, à Billy Graham, l'homme de Dieu des nations. » Et à ce moment-là, elle voyait passer toutes sortes de courriers de gens qui la jugeaient, qui l'écrasaient, lui disaient, « C'est terrible la honte que tu amènes à ta famille, la honte que tu amènes. » Elle dit, « Lorsqu'on arrive chez la maison de mes parents, qui ont la même maison pendant 50 ans ou 60 ans, c'est une petite maison en haut d'une colline, puis il y a une côte, il y a une pente, puis il y a un gate, il y a une clôture, il y a une porte qui est là. Puis moi, je m'emmenais dans ma voiture, puis je me disais, faut que j'aille, comment mon père va-t-il m'accueillir, comment moi? Elle dit, lorsque je suis arrivé à la gate, mon père m'attendait, la maison est en haut, en bas, à la gate, mon père m'attendait. Billy Graham, pas l'évangéliste, l'homme, le papa. Elle dit, je ne m'étais même pas sorti de ma voiture, qui s'est mis à courir, me pris dans ses bras. Elle dit, I love you, welcome home. Je t'aime, bienvenue à la maison. J'aimerais vous dire que dans ce moment-là, Billy Graham a fait des choses extraordinaires, des exploits extraordinaires partout dans le monde, en prêchant vraiment à des dizaines et centaines de millions de personnes. Mais je crois que dans ce moment-là, il personnifiait et incarnait en son humanité, le cœur de Dieu qui te dit où que tu sois allé, quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit ce qui t'a été enlevé, quel que soit ce qui s'est éteint, quel que soit ce qui t'a été arraché, viens, je t'aime, viens à la maison, je t'attends avec mes bras ouverts, j'ai encore des plans de former pour toi, des plans de paix et non de malheur, je dois te donner un avenir et de l'espérance, je vais prendre plaisir à te faire du bien, à te rebâtir, à te restaurer, car je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui fera au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et tout le peuple du Dieu de l'impossible dit un grand Amen et Amen. Voulez-vous acclamer avec moi le Dieu de l'impossible?
Demandez de vous lever avec moi dans la présence de Dieu et toi aussi en ligne. Ce message est pour toi, la parole de Dieu est puissante pour toi. Ce n'est pas un chant que nous allons faire à la fin de ce message, c'est ce moment de consécration. Alors, partout où vous êtes, penchez la tête un moment. Si vous êtes ici, vous êtes Seigneur, ou en ligne, là où tu es, le Seigneur avait ce message pour toi. Dans la deuxième partie du message, on va voir ensemble comment aller, comment voir le Dieu, comment on rebâtit avec le Dieu de l'impossible. Si vous êtes ici ce matin, en présence de Dieu, ou quel que soit le moment où tu verras ce message en ligne, Seigneur, je vis une situation impossible humainement. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne sur moi, qu'il me couvre. Je veux te remettre ma situation à toi, Dieu de l'impossible. Tendez vos mains vers lui, partons à travers ce lieu. Commencez à lui remettre votre impossible, maintenant. Humainement, c'est impossible, Seigneur, mais à Dieu, tout est possible. Seigneur, tu peux faire par ta puissance que j'ai en moi, au-delà de tout ce que je demande. Alors, j'ai entendu quelque chose ce matin, je réalise que je ne dois pas te limiter à ce que moi j'avais prié. Je ne dois pas te limiter à ce que moi je veux. Je ne dois pas te limiter à ce que moi j'ai demandé, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, toi, Dieu de l'impossible. Seigneur, je suis en Babylone. J'ai péché, j'ai gaffé, j'ai gâché. J'ai fait du mal et je me suis fait du mal et j'en ai fait aux autres. Mais tu me dis aujourd'hui que tu connais encore les plans que tu as formés pour moi. Plan de paix et non de malheur. Et Seigneur, j'ai entendu, j'ai écouté beaucoup de voix, Mais maintenant, je vais entendre ta voix. La parole de l'Éternel fut adressée à Claude et à Thomas. Il fut adressé à Marie. Il fut adressé. Mets ton nom. La parole de l'Éternel fut adressée. Seigneur, viens. Viens me remplir de ta parole. Je ne m'en détournerai pas, ni à gauche, ni à droite. Je vais me tourner vers toi, Seigneur mon Dieu. Tu vas me fortifier. Tu vas briser le cycle de l'épuisement et le cycle de la peur et le cycle de l'endurcissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens écrire ta promesse dans mon cœur. Viens écrire la promesse comme elle a été écrite sur ce parchemin il y a ces millénaires. Viens écrire de nouvelles promesses dans mon cœur. Viens écrire de nouvelles promesses sur mon cœur. Je vais les garder, je vais les conserver, car elles s'accompliront. Tu as fait des choses pour moi. Tu as accompli, Seigneur, des œuvres dans ma vie. Tu accompliras tes desseins à mon égard et tu en concevras d'autres encore. C'est ma déclaration. Et c'est ma foi dans le nom de Jésus. Et partout à travers ce lieu et de l'autre côté de l'écran, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu et dire, Seigneur, et Dieu peut faire, faites votre déclaration de foi, Dieu peut faire au-delà et plus que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Allons.